Bonjour à toutes et à tous à ces ondes de Poétique. Donc, c'est une coproduction des radios associatives locales avec chaque jour une radio différente, donc FM+, Radio Aviva aujourd'hui, etc. Et les émissions vont passer dans toutes les radios. Donc vous pourrez retrouver les débats que nous avons ici. Donc ce 19e festival de Voix Vive a eu une mouture extrêmement riche, dense, plus de 60 poètes qui sont là, beaucoup aussi de concerts, beaucoup de débats, d'ateliers d'écriture. Et aujourd'hui, nous allons nous attacher à vous présenter, à vous faire découvrir ou redécouvrir Francis Combes, bien sûr, Sappho, bien entendu, et puis enfin, notre poète israélienne, Maya Weinberg, Naïm Meod.
Enchantée.
Bonjour, enchantée. Vous parlez le français ?
Comme la vache espagnole.
Tout va bien. Moi, je parle l'hébreu comme une vache espagnole aussi, donc on est bien. J'ai quatre mots. Alors, la poésie, c'est très souvent pour le public quelque chose qui fait peur, qui est un peu hermétique, je dirais, entre guillemets. Alors, vous comprenez ce que je dis ?
Oui.
Donc, je voudrais commencer par Sappho et puis ensuite on parlera à Maya. Sappho, je sais que Sappho est fort connue, c'est une artiste réputée franco-marocaine et polyglotte avec l'arabe, l'anglais, le français et l'espagnol. Alors,
l'anglais.
Anglais, bien sûr.
Je dis des bêtises.
Et Sappho, vous écrivez, vous chantez. D'abord, comment s'est passé le concert ?
Très bien, je me suis juste cassé le petit orteil, mais à part ça, mon élan furieux, ça s'est bien passé.
Bon, ça ne m'étonne pas. Alors, Sappho, vous avez une carrière qu'il est dur de résumer, un premier album en 77, et puis, bien sûr, un album Barbarie, le premier succès. C'est prémonitoire ?
Non, ben ça a déjà été, hélas. C'est-à-dire, c'était déjà là, la barbarie. C'est ça qui est terrible, on a l'impression de répéter, quoi, parce que
C'est la sensibilité des poètes, mais ça. Ils sentent venir le vent.
Mais c'est-à-dire que vent de barbarie est toujours présent et la barbarie couve ou bien elle explose, mais elle est là, quoi. C'est ça qui est. Et on est là pour, évidemment, je pense que les poètes sont là pour l'entendre et essayer de la dénouer, mais c'est en même temps indénouable. Mais bon, les mots sont là aussi pour, je sais pas, pour dissiper la haine si possible, mais c'est pas facile.
Il faut faire, Sappho, il faut que les gens se connaissent mieux.
Et quand ça parle,
oui,
quand ça
c'est
parle,
déjà mieux.
C'est déjà mieux.
Vous chantez cette paix, vous avez chanté vous avez fait rendu hommage au Gnawa, à la musique judéo-arabe, bien sûr, à Oum Kalsoum,
oui,
qui est un mythe dans les pays arabes et qui n'est pas assez connu dans nos pays,
de plus en plus. J'ai osé chanter une chanson de Kalsoum et c'était une gageure, et un an de travail, et puis après ça a été merveilleux parce que le public arabe notamment était
tellement heureux.
Était là, heureux, et j'étais moi aussi extrêmement heureuse de cet échange.
C'est important ces ponts qui se dressent entre comme ça, qui se bâtissent entre
très
des
fort,
cultures.
Très fort.
C'est fondamental. Alors, vous étiez à New York dans les années 80. Vous avez dédié un poème à Yasser Arafat. C'était audacieux aussi.
Non, c'était pas ça. C'était une lettre en fait.
Une lettre. Ah, c'était
pas
un poème.
À un moment donné, quand il a dit que l'idée de je sais plus l'histoire Kadiouk là, qu'est-ce qui était Kadiouk déjà, toi, tu vas me le dire. Enfin, qu'est-ce qu'il avait dit qui était Kadiouk ? La charte, dans la charte de l'OLP, que c'était Kadiouk, donc ça veut dire que c'était un geste pour la reconnaissance de l'autre, et du coup je lui avais fait toute une tirade.
Félicitation.
Une tirade,
voilà.
en haut de l'Institut du monde arabe, et ça avait été publié. Bon.
Donc quand on s'appelle Sappho et qu'on écrit à quelqu'un, ça fait un poème.
C'est une sorte de...
Quelles sont vos sources d'inspiration à présent ?
Je pense qu'on est tous dans une espèce d'autobiographie bizarre. Et quand on est dans notre autobiographie, elle est aussi faite des autres. Il n'y a pas que l'auto. Il y a tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit. Donc il n'y a pas. Après, c'est le travail de la langue, c'est-à-dire de travailler la langue de telle sorte qu'elle ne soit pas dans une espèce de redite ou de je sais pas comment expliquer ça, mais de, oui, dans la barbarie du déjà dit, quoi.
Oui, c'est ça, la répétition, la banalité.
Oui.
Trouver un autre regard, un autre angle pour casser, dire les choses.
Casser la langue pour que ça parle plus, pour que ça réveille. Et effectivement, quand on la parle à sa façon, à soi très singulière, eh bien, ça réveille, ça se fait entendre davantage, je pense.
Bien sûr.
Ça fait entendre tout à coup ce qu'on n'entendait plus, parce que c'était tellement dit, redit. Bref.
Est-ce que votre culture judéo-marocaine vous aide dans ce pont ? Parce que c'est un pays où les gens se parlent, les gens se connaissent, les gens savent ce que fête le voisin.
Il y a...
C'est une fête juive, c'est une fête chrétienne, c'est une fête musulmane. Ça ne fait pas de différence. On envoie des cadeaux, des gâteaux.
J'ai ce souvenir merveilleux. Ouais. De juifs, de chrétiens, de musulmans qui vivaient, mangeaient ensemble, partageaient tout avec une espèce d'harmonie. Et c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, je comprenais pas la guerre israélo-palestinienne. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'essayais de... Et mon élan d'enfance, qui n'avait pas encore grandi, était d'y aller, d'aller comprendre. Et j'entendais des choses que je comprends maintenant, mais que je comprenais pas du tout sur le moment.
Oui, à l'époque, on comprenait pas la portée.
Les jeunes palestiniens me disaient, tout ça, c'est de la faute des Américains. Je comprenais pas ce que les Américains avaient.
Ce qu'on me raconte.
Cette histoire. Et effectivement, tout ça se dénouait, se déroulait, se découvrait. Et voilà, j'ai essayé d'être là, mais avec toute l'impuissance, et peut-être la petite puissance, je sais pas.
Alors, votre dernier poème, Certificat de vie.
Non, c'est pas ça du tout.
C'est pas ça du tout.
Ah non, pardon, j'en connais. Pardon, excusez-moi.
Votre dernier.
C'est français.
Excusez-moi, vous avez une sensibilité possédée. Donc, désolé. Alors, je vais vous laisser le micro, non, du coup, puisque c'est ainsi. On devait en parler maintenant.
Non, mais en plus,
vous êtes partageur.
Partageux.
On a échangé nos noms de résistants tout
c'est
à
vrai?
L'heure. Et je m'appelle Francis Combe et il s'appelle Safo. Bon.
C'est une bonne idée, ça. On va faire une interview croisée avec le regard de l'autre. Pardonnez-moi. Alors, c'est très intrigant, Francis Combe, je vais vous présenter, mais certificat de vie, c'est très administratif pour la trois quarts des gens.
Oui.
Alors, pourquoi ce titre ?
En fait, c'est mon dernier livre, j'ai publié une trentaine de bouquins, comme je le disais. Il se trouve que ma femme, avec qui j'ai vécu 50 ans, et qui venait tous les ans à 7... pour m'aider à tenir le stand des éditions Le Temps des Cerises que j'avais créé, est morte il y a 2 ans d'un cancer du poumon. C'était une fumeuse invétérée.
Désolée.
Une fumeuse invétérée. Je n'ai jamais réussi à la convaincre d'arrêter. Cette histoire a été jusqu'à son terme. Et donc, certificat de vie, c'est effectivement une preuve administrative de vie. Mais j'ai réuni, après être resté pendant quelques mois incapable de rien faire, les poèmes que j'avais écrits pour elle pendant une bonne dizaine d'années.
Vous avez refait un recueil pour Patricia Latour.
Des poèmes d'amour, mais qui en même temps, parce que c'est ma conception et de l'amour et de la vie et de la politique, il se trouve dans ce recueil des poèmes sur la guerre, sur la paix, sur la situation politique, sur l'extrême droite. Donc c'est un amour mêlé à l'amour du monde, disons.
Hein. Bien sûr, voilà. Le monde qu'on vit en fait. Hein.
Juste pour te dire... Je pense que c'est pas innocent de nous avoir mis ensemble.
Ah oui.
Parce que mon nouveau livre, Traverser la nuit, c'est parce que mon compagnon est mort, mon compagnon de 30
ans. C'est un peu ça.
Et j'ai écrit aussi pour lui. Et il y a cette histoire de, cette chant d'amour pour lui. Et la guerre et tout ça. C'est pour ça que c'est assez drôle. Voilà. Je voulais juste dire que c'était pertinent.
Vous portez tous les deux là un témoignage sur notre monde. Alors, je voudrais, Francis Combe, vous êtes plus proche, hein ? Vous êtes toujours dans les Cévennes ?
Non, je suis né dans les Cévennes.
Oui.
Et j'ai passé mon enfance, mais j'habite à Aubervilliers.
Oh là, c'est moins poétique.
Oh, c'est une autre poésie. C'est la poésie de la banlieue ouvrière qui a des traditions. C'était la ville de Jacques Ralite. C'est une ville à laquelle, qui est à la fois rude et tendre, et à laquelle je me suis attaché. J'ai d'ailleurs écrit beaucoup aussi sur Aubervilliers, comme sur les Cévennes. En fait, l'être humain est comme un lierre. Hein. Je crois qu'il s'attache où il vit.
Là où il est. Et heureusement.
Absolument.
Heureusement. Hein.
Et donc, je crois que j'ai essayé de saisir l'esprit de poésie qui pouvait exister aussi dans cette banlieue, qui est un esprit de fraternité humaine, de mélange.
On dit que c'est resté très vivace, oui, cette tradition de lien. C'est resté.
Les gens magnifique. Se saluent dans la rue. C'est pas la sauvagerie que l'on décrit.
Hein? Donc ça, c'est très agréable, bien sûr.
Et par exemple, mes voisins de palier, je vais pas être bavard, hein. Enfin, je risque de l'être, donc... Arrêtez-moi si je le deviens.
Attention.
Arrêtez-moi. Mais par exemple, j'habite dans une cité HLM, j'avais pour voisins à ma droite des Marocains, à ma gauche, une famille juive orthodoxe.
D'accord.
Le père était boucher... Je ne sais pas comment
boucher
il faut dire
cachère.
Exactement. Cachère. Hein. Ouais. Eh bien, lors des fêtes importantes, les voisins s'échangeaient des gâteaux.
Mais hein. Je trouve ça génial.
Voilà. Donc il n'y a que nous, disons d'origine française, cévenole, qui ne faisions pas de gâteaux. Mais on les mangeait.
Vous les appréciez au moins.
Absolument.
Bon, ben, tout va bien. Donc, c'est l'apport, justement, de chaque pays, ces traditions-là. C'est important de les maintenir, ça faut.
Moi, je les maintiens pas personnellement, mais en tout cas, quand je peux y participer, j'en suis toujours enchanté.
On est toujours content. Il y a une petite Madeleine de Proust.
Évidemment.
Qui est restée.
Mais même sans ces souvenirs personnels, le fait d'échanger comme ça, d'aller à la rencontre, d'avoir cette curiosité, de prendre ce risque, parce que c'est un risque d'aller à l'autre. Ben c'est toujours la plus belle chose à faire, je trouve.
Puis c'est aller vers l'autre, un peu ce qu'il aime,
prendre
et ce qui le structure aussi. Alors, on va se tourner vers Maya Weinberg. Maya, vous êtes née en Israël, vous êtes scientifique aussi et poétesse. Donc ça, c'est tout à fait rare. Et qu'est-ce qui vous a amené de la zoologie à l'université de Tel Aviv au poème?
I will if I need to answer, I will answer in English though.
That's okay.
Oui, j'agree. I agree.
Agree.
C'est vrai.
How?
Pour vraiment.
Comment vous avez eu l'idée de faire un poème? Quand on est scientifique, j'en suis. On est très descriptif, basique ou vraiment recherche, mais écrire, c'est pas. On écrit des comptes rendus.
It's complicated.
C'est compliqué.
Oui. Oui. Life is complicated.
Bien sûr, bien sûr.
Being born in Tel Aviv is complicated enough.
La vie est assez compliquée. Oui. Vivre à Tel Aviv, être né à Tel Aviv
est compliqué. Être né à Tel Aviv, c'est suffisamment compliqué.
On comprend. Et bien sûr, on imagine et on comprend.
As older I get, I live better with the contradictions. Yeah. Of my biography in general.
Yeah. Donc je vis mieux avec les deux aspects hein, de ma contradiction, le poème et la science.
Oui, and I think, je peur, that if I would do only poetry, I will go mad.
J'ai l'impression que si je ne fais que des poèmes, je vais devenir folle.
So thank God for science.
Donc merci.
Biology, zoology.
Merci, Dieu merci, j'ai la zoologie. Alors, si vous ne faisiez que de la zoologie.
Okay, now I need the explanation in English.
If you were only a scientist.
Yes.
You would be made to.
No, I would be bored.
Je m'ennuierais. Voilà, c'est une très belle description. Alors, 4 recueils de poésie ont été publiés, bien sûr. Des essais aussi. Et puis, alors... Comment vous diriez que vous vous exprimez? Vous voulez aussi décrire la vie à travers vos poèmes ou vos sentiments à vous?
I need an explanation for the last sentence, the question.
What's your scope when you write poetry? It's to speak about you or the life or both?
Quelle question! Wow, you know, I have a horrible metaphor for poetry.
Oui, j'ai une métaphore.
Je suis le vétérinaire. The first thing I am is a veterinarian doctor.
Yeah.
We are not discussed by vomiting or digestions or, you know. So, and I apologize for the metaphor.
Donc la seule, mon premier métier, c'est vétérinaire. Donc je suis désolée pour la métaphore, mais il y a, quand on est vétérinaire, des vomissements, etc.
So whatever, you know, whatever I read, whatever I see, whatever I experience comes out in my poetry as if whatever I eat and whatever I drink come out as a poop. Donc, does it make sense?
Yeah, of course.
Je suis désolée, mais c'est exactement comme ça.
Tout ce que vous vivez devient poème, ok? Et ce que vous écrivez devient expérience?
Say in English.
What you live is becoming a poem.
Exactly.
And what you are working on is inspiring your poetry too.
And I will tell you why. I work mostly with les animaux.
Je suis tout le temps avec des animaux, essentiellement.
And they don't speak.
Ils ne parlent pas.
So I need to look and I need to feel and I need to translate what's going on.
Dressing. J'ai besoin de regarder, de sentir ce qui se passe. Ils ne parlent pas. Et de traduire ce qui se passe.
And when I stop my work and I go home, I can't turn it off. So if I walk in the street, you know, I see things, I keep on translating things to myself and putting it into words make it sensible for me.
Donc je traduis tout cela bien sûr quand j'arrive à la maison, j'arrête, je fais ces interprétations avec les animaux, avec les gens dans la rue, etc. Et quand vous rentrez chez vous, vous écrivez. Elle continue avec
de traduire
ce qui s'est passé à l'extérieur. OK, sorry.
It's not at home, it's everywhere, you know. I write even when I don't write. I it's just something that is happening constantly. I take inspiration from non-verbal situations.
Okay. Donc c'est un très beau résumé. En fait, son inspiration vient des situations non-verbales et des relations non-verbales, en fait.
It's the same sensitivity.
C'est la même sensibilité. Vous sentez les gens? Vous sentez aussi les humains?
Non.
Elle n'a pas hésité une seconde. Hein, je prends à témoin les festivaliers qui sont là, mais pas un quart de seconde.
Ça marche.
So why? It's not inspiring.
Humans?
Yeah.
I get better with animals.
Elle préfère rester avec les animaux. Je lui demandais si c'était inspirant. Si ça n'était pas inspirant, les hommes, les humains, mais non, elle préfère les animaux.
I can explain why, but it's just the way it is.
Okay.
There's something very honest about animals, and j'adore honesty.
Il y a quelque chose de très honnête chez les animaux et j'adore l'honnêteté. Of course, they don't play. Ils ne jouent pas.
They don't say one thing and do the other.
Yeah. Ils ne disent pas une chose en faisant l'autre.
Ouais.
Yeah. So, soyons tous un peu animaux. On sortira un peu mieux. Oui, de temps en temps, bien sûr. Bien sûr.
I think that poetry is the same.
Yeah.
It's not about... It's straight to the point, just the more purified thing. And animals, it's the same energy, something very clean, clear, direct, very...
Je pense que la poésie, c'est la même chose. On va droit au but, on ne tourne pas et les animaux sont comme ça, direct.
I hope it makes sense.
Ce que je vous propose, Maya, c'est d'entendre le résultat de cette démarche-là, de transmettre la sensitivité. Can you read the poet?
Absolutely.
Poem?
Yeah.
You have the translation in French?
I have the translation and I have Céline.
It will be Céline. Okay, that's fine.
Yes. I didn't want to go into politics, but Safo started... So we will go very delicately,
smoothly,
very smoothly, okay. If you want. Yeah.
Elle est en train de dire, je ne voulais pas aller en politique, mais Safo a ouvert le jeu, donc je vais y aller doucement.
And I will read in Hebrew, of course, I'm sorry. Yeah.
Yes, because it's nice to hear Hebrew.
Yes, thank you. מראה מקום, קיץ. ואני נוסעת בין קוצים ואנדרטאות, ארץ חבולה. בתוך כל הבלתי נסבל ציפייה בלתי נמנעת להקלה. יום אחד ירד כאן גשם, ומי שישרוד עד אז ינשום לרווחה. בינתיים אני חולפת בנוף כאילו זו הפעם האחרונה. בשדות ממטרות כמו חסידות מים. בשמיים השמש מבטרת לשקיעה. בקו החוף חבצלות אמיצות בסלע, יפות חצוצרה, ומי שיכול עוד חי.
Ça finit par la vie, ça paraît assez bien.
Panorama. Cet été, je voyage entre les épines et les monuments, terre meurtrie. Au cœur de tout l'insupportable, l'attente inévitable d'un soulagement. Un jour, la pluie tombera ici, et celui qui survivra jusque-là respirera avec soulagement. Entre-temps, je passe dans ce paysage comme si c'était la dernière fois, dans les champs, les arroseurs, comme des cigognes d'eau. Dans le ciel, le soleil renonce à se coucher, sur le rivage, des lys de mer, beaux, courageux, comme dans les rochers, et celui qui le peut encore est vivant.
Merci Céline de Serre. Je voudrais demander à présent à justement Francis Combes, que j'ai écorché un peu votre biographie, alors j'ai un peu de... J'aimerais que vous nous lisiez un de vos poèmes.
Je vais vous lire un poème très simple et que je n'ai jamais lu. Parce que...
Que vous n'avez jamais lu ?
Je n'ai jamais lu en public.
Ah ouais, jamais.
Je l'ai relu, hein, avant.
Oui, non, ça, j'en doute.
Je n'ai jamais lu en public. C'est un poème pour ma femme, mais qui a un rapport avec nos histoires. Ça s'intitule « Ma guerrière ». Parce qu'en fait, cette expression m'énerve beaucoup. J'entends dire « t'es un vrai guerrier », etc. Ouais. Bon, non. Alors, « Ma guerrière ». Tu es depuis toujours une battante. Fille d'ouvrier d'Aubervilliers, tu t'es battue pour tes études. Tu t'es battue pour tes enfants. Tu t'es battue pour la paix au Vietnam. Tu t'es battue pour Angela Davis. Tu t'es battue pour des changements. Tu t'es battue pour la démocratie. Tu t'es battue pour le socialisme et la liberté. Tu t'es battue au travail. Tu t'es battue contre les problèmes d'argent. Tu t'es battue pour ton amour. Tu t'es battue pour les femmes, tu t'es battue pour l'égalité, tu t'es battue pour la poésie, tu t'es battue contre le cancer, tu t'es battue pour la paix, tu t'es battue pour la vie, mais jamais, non, jamais, je n'ai pensé t'appeler ma guerrière.
Magnifique, c'est magnifique. Quel bel hommage pour Patricia Latour. Je suis ravie qu'on puisse rendre cet hommage. Alors, Sappho l'a traversé la nuit, comment ?
Alors, bizarrement, je pense que c'est peut-être pas bizarre.
Non, il y a
donc c'est mon dernier livre. Et oui, c'est-à-dire que ce livre, je l'ai écrit après la mort aussi de mon conjoint. Et il se déroule en trois parties. Il y a donc l'adieu.
Oui.
Ensuite, il y a le monde. Et à la fin, il y a le retour par les amis. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit bout du début.
Un petit bout de... voilà.
Mais je suis un peu plus longue que notre camarade.
Alors, je rappelle aux festivaliers, à nos auditeurs, que les éditeurs sont sur la place de la mairie.
Oui, alors tu relises.
Pour ceux qui cherchent les ouvrages.
Alors, je vais vous lire... Au début, je fais une espèce d'ode à la littérature... Je vais juste un petit bout, parce que pour moi, ça, c'est une espèce d'ouverture. Le jour où il déclare avoir embrassé l'aube d'été, ce jeune homme a embrasé la poésie, ce jeune homme de 16 ans a libéré les poètes du monde entier de la vague des vers contés. Ils y sont revenus parfois avec bonheur dans la bouche d'Aragon ou d'un autre, mais il a libéré le bateau ivre, il a laissé la parole rêvante arrimer sa voile, et le vent a enflé le verre, et les ailes sur le verre sont brûlées, etc. Lui qui n'avait pas vu la mer, ses yeux pleins du récit des livres, il sut transformer les mots en chair et mettre toute chair dans ses mots. Oh, illumination. C'est pour notre ami Rimbaud. Tu es parti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas arraché mon vêtement. Je n'ai pas coupé mon col en signe de deuil. Je n'ai pas geint et crié à l'aide. J'ai été prise de silence. Moi qui n'ai jamais connu la moindre page blanche, ce fut le blanc, l'impossible. Alors tu n'écris pas, me disait-on. Si, si, j'écris à courte voix, plus dur que le cri, plus lourd que la plainte, le blanc. Tu n'étais plus là, mon aiguillon, mon compagnon de parole, mon entretien infini, et parler dans l'océan. Pour l'océan, il y a bien les mouettes. Dois-je me métamorphoser en l'un de ces oiseaux ? Je t'ai accueilli dans ce manque, je t'ai sacrifié à mon insu. La seule chose qui importait à mes yeux, parler, chanter le monde, rien n'était plus assez fou, assez grand pour te dire absent. Pourtant, les petites choses du monde, les choses partagées, ne sont-elles pas les plus grandes ? Et tu n'étais plus là. Et pour comble, dit la maison, la jeune amie se meurt, elle me prête un pouvoir que je n'ai pas. Et ton fils magnifique me sourit quelque chose de toi dans sa posture, me sourit avec insistance. Alors je vis un peu, je me tue à me taire, je me suis tue pour te garder. Me garder d'écrire, pour te garder encore, dans la maison du silence, tu n'es plus là. La maison pleure aussi, on dit qu'elle fuit, elle s'enfuit. Elle ne parle que de toi, elle s'enfuit.
C'est magnifique, vraiment magnifique. Et Sappho, comme pour vous d'ailleurs, Francis, comment des choses comme ça aussi personnelles, ça coule ou c'est quelque chose qui est retravaillé ? Sappho, c'est magnifique. Chaque mot ajoute un peu à la sensibilité de ce que vous voulez
transmettre. Je pense que chacun de nous a son histoire avec les mots à sa façon. Mais par exemple, quand j'ai été en écho à ce que disait Francis, tu disais que tu t'étais tue, que tu as dit ça. Et ça m'a évidemment beaucoup parlé, puisque je dis effectivement, devant la chose aussi effroyable que cette disparition, on ne peut plus dire, et la poésie, c'est un endroit où c'est pas la peine de dire pour dire, enfin, on est obligé d'attendre. Et après.
Il y a un silence.
Il y a un silence. Et là, effectivement, le poème s'en va. Et là, bien sûr, on le surveille. Il s'en va à notre insu. Il y a de l'insu, mais après, on est là pour lui faire sa toilette, quoi.
C'est pareil pour vous, Francis?
On n'a rien à ajouter.
Ouais, c'est magnifique.
Non. Je tiens qu'un poème doit être vécu avant d'être écrit.
Ouais.
Parfois, la vie déborde. « Le temps déborde », disait Éluard après la mort de Nuche. Hein. Et moi qui suis plutôt enclin à écrire des poèmes heureux, j'ai une fâcheuse tendance au bonheur, en vérité. J'ai toujours écrit des poèmes heureux, des poèmes joyeux, même des poèmes politiques. Je supporte pas le mode de l'indignation. Personnellement, j'ai besoin du bonheur. Mais bon, parfois la vie vous rattrape et vous oblige à écrire des poèmes tristes.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est comme ça. Mais même dans la tristesse, ce que la poésie peut nous apporter, c'est qu'elle peut magnifier la tristesse.
En même temps, même si on est triste, on peut célébrer l'autre, célébrer le disparu. Et c'est ça, c'est joyeux, peut-être.
Est-ce que, quand vous écrivez, vous avez conscience de transmettre, d'aider le lecteur de vos poèmes ? De l'aider. Quand on entend ce que vous dites, je suis sûre que les gens qui ont perdu un être cher et qui ne savent pas le formuler, c'est quelque chose qui pose les...
Si le poète peut servir à ça, c'est formidable. Il peut servir à consoler et à renforcer en nous les forces de vie.
Trouver les mots pour dire ce que l'autre pense.
Si on réussit à ça. Je crois que la langue n'appartient pas aux poètes. Ils n'en sont que les artisans, que les serviteurs, d'une certaine façon. Et ils le font pour leur propre compte, bien sûr. Moi, quand j'écris un poème, je ne pense pas forcément au lecteur. Mais j'essaie d'écrire ce qui me paraît nécessaire. Et je formule l'hypothèse, a posteriori, que si ça m'a paru à moi nécessaire, ça pouvait être peut-être utile ou plaisant ou nécessaire à quelqu'un.
Les mots que vous avez trouvés ont exprimé cette nécessité. Sappho, je vous ai vu piétiner là.
Non,
quand
non, j'allais dire quelque chose, mais j'étais perdu.
Mais oui, on a vu.
Je suis capable de me casser l'orteil.
Et ce n'est pas Maya qui a vu, qui est habituée à percevoir comme ça.
Je voulais dire juste que par exemple, il y a des chansons d'Oum Kalsoum ou d'Edith Piaf qui font pleurer normalement, qui parlent de choses terriblement tristes, et on adore avoir, et on adore pleurer. C'est ça que, en fait, c'est à ça que je pensais. Je disais, finalement, la poésie, si il y a cette dimension du chant, de l'abandon, on a du bonheur à entendre le malheur dit de façon juste, qui vous transperce, parce qu'on se dit, mais oui, j'y suis. Enfin, Et c'est parce que ça a été dit justement, peut-être, je ne sais pas, d'une certaine manière ou d'une autre, hein, je veux dire. La voix de Edith Piaf, c'est elle la justesse, c'est pas tant le texte, c'est sa voix, c'est son gémissement. Et puis la justesse peut se trouver aussi dans les mots qui sont dits, enfin, voilà.
Maya Weinberg. Yes, you want to read? Okay. It's better for your French.
I tried. Okay. תנוחת ההר. ההר אינו מבקש דבר. מגדיר את הנוף בכתפיו וביתר פרוס איברים. דבר אינו מעלה עבורו, אינו מוריד. פרט לזמן, וגם זה בסדר גודל של הרים. כאשר חצבו, כאשר שרפו, כאשר נטעו, כאשר נטשו, כך עמד תמיד. ולא מפני אדישותו, כי אינו אדיש, אלא מעצם היותו הר, הראשון בתנוחות העמידה, נותן עמידה ליתר הדברים.
Position de la montagne. La montagne ne demande rien. Elle définit le paysage de ses épaules, le reste déployé. Elle n'a rien à ajouter, rien à soustraire, excepté le temps, et cela aussi, à la mesure des montagnes. Quand on la creusait ou la brûlait, quand on la plantait ou on l'abandonnait, elle se dressait encore. Et non par indifférence, car elle n'est pas indifférente, mais parce qu'elle était une montagne. La première des positions, c'est la hauteur qui donne la mesure à toutes les choses.
Magnifique.
Another one.
Very
short.
True. Yeah, yeah.
Thank
Bravo.
You.
Bravo.
Les 11 oiseaux. Tzipor achat. Bakvish amahir, etz echad, uvo anaf echad. Ve'alav tzipor achat. Mabati bekcek tnaf yecholta. Mabata bedavar shelo eda. היא נשארת, אני חולפת, ונדמה שכך, חיי כולם.
Un oiseau. Sur la voie rapide, un seul arbre, et sur lui une seule branche, et sur elle un seul oiseau. Mon regard est fixé sur son aile déployée, le sien sur quelque chose que je ne saurai jamais. Il demeure, et je passe, et il me semble que toute ma vie est ainsi.
Magnifique, very
Merci.
Beautiful.
Look at the First. Difference. The Hebrew is so short,
it's a,
and the French is so long.
That's,
c'est
that's
drôle.
French.
That's French.
Le français est trois fois plus long ouais. que l'hébreu. Donc, c'est pas possible que mon poème si court, ça donne tout ça.
C'est comme ça.
Yeah. Ouais, a lot of shtuyot.
Beaucoup de choses.
Des petits mots qui servent pas à grand chose. Enfin, qui donnent la nuance. It's a nuance. Ok. J'aimerais vous demander maintenant à chacun de vous, vous êtes devant des festivaliers, vous avez vu l'atmosphère de Voix Vive, ces poèmes, ces poètes qui viennent de plus de 15 ou 20 pays, autour de la Méditerranée, maintenant bien au-delà. Les gens qui se parlent, qui échangent, des festivaliers qui écoutent, il y a des sentiments, des émotions que vous suscitez. Que représente pour vous d'abord Sappho, ce melting pot à 7?
C'est une chose pour moi très familière, donc je ne me sens pas à l'étranger. D'ailleurs, je me sens à l'étranger nulle part, étant donné mon cerveau rempli d'influences tellement diverses dès le départ. Non, au contraire, je suis ravie de rencontrer tous ceux qui sont là, quels qu'ils soient, mais là aussi, étrangers. Qu'est-ce que c'est qu'étranger ? C'est une question. Je pense qu'il y a entre nous tellement de choses communes. Et pourquoi est-ce que... Voilà. Moi, je me souviens d'un souvenir délicieux d'ici. Il y avait des calicots et il y avait la phrase d'un poète iranien, donc un poète iranien, qui écrivait « Le plus beau drapeau que je connaisse, c'est la jupe de mon amante qui vole au vent. » C'est pas mal.
Hein? C'est joli.
Ben voilà, c'est pas un étranger.
Et justement, alors, Francis Combes, le fait de réaliser ces points communs entre des gens venant de cieux tellement différents, est-ce que vous voulez nous en dire un mot, nous lire quelque chose qui porte là-dessus ?
Sète, c'est un rendez-vous pour nous annuel, pour un certain nombre de poètes français et étrangers. Et dans une situation où, malheureusement, la culture est attaquée de toutes parts, où plusieurs festivals de poésie ont dû fermer leurs portes.
Mais oui.
Sète est maintenant le principal festival de poésie en France. Il faut défendre le festival Voix Vive, parce que...
Absolument.
La poésie, c'est un lieu pour la personne qui passe et qui ne connaît pas, qui ne s'intéresse pas, de se dire, oh, les poètes, ils parlent d'eux, ils sont un peu nombrilistes, ils sont un peu narcissiques. C'est vrai des fois, hein, d'ailleurs.
C'est utile, quelquefois.
Mais la poésie a cette particularité d'être une parole personnelle, singulière et en même temps partageable.
Oui.
Parlant d'eux-mêmes, si ce sont des vrais poètes, des beaux poèmes, de vrais poèmes, ils parlent de tous. Et donc, un festival de poésie, c'est un moment où on défend notre humanité commune.
Absolument.
Singulière et partagée.
Et je trouve donc, que c'est le rôle de la culture en ce moment.
Oui, c'est le rôle en général de la culture.
Voilà. C'est important. Et tous les c'est une co-construction avec les festivaliers qui sont là et qui cautionnent cette démarche, finalement. Sans festivaliers, pas de festival.
Un poème plutôt qu'un discours, hein ?
Oui. N'est-ce pas ?
Donc, un très court poème. Qui s'intitule un toast. Il n'y a rien à boire ici, mais...
Désolé, je peux vous partager mon verre d'eau.
On s'attrapera après l'émission. Un toast. Le soleil a mis la main à la pâte. Et voici que le jour lève, blond et doré. Ne pas s'entretuer sur la terre des hommes, ce n'est pas assez. Viens, l'ami, assieds-toi à cette table. Partage le pain et le vin. Et portons comme autrefois un toast à l'amitié des peuples. Il y a assez de place au soleil pour nous tous.
Yes.
Oui. Bravo. C'est une très belle conclusion. Il y a assez de place au soleil pour nous tous. It's a good conclusion.
Yeah.
Merci à vous, merci à tous les festivaliers qui ont affronté la chaleur et qui sont installés sur leurs chaises longues. Pour ceux, alors, les gens qui nous écoutent ne vous voient pas, donc je vous dis un peu comment ça se passe. Cette émission va passer sur Radio Aviva, FM+, Radio Languedoc, RPH, Radio Grille Ouverte, et donc sur plusieurs radios associatives, les radios associatives qui assurent finalement cette pluralité, liberté d'expression sur les territoires. Elles sont axées sur la vie du territoire. Merci au festival Voix Vive avec Maïté Vallès-Bled qui monte à chaque fois d'un cran le niveau du festival. Et merci. Merci Sappho, merci Francis Combes et merci Maya Weinberg de vous être prêtée à cet exercice et essayer de parler le français. Merci à Céline Desserre pour ces magnifiques lectures. Merci à vous.